Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour les nuits de l'after, la Coupe du Monde sur RMC, vous le savez, la radio officielle du Mondial 2026. Il est 15h02 ici à New York, 21h02 en France. À mes côtés pour ce match qu'on va suivre dans moins d'une heure, Pays-Bas-Japon. Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Ruina Vantalman.
Il plante le décor, la couleur.
C'est toujours la même chose.
Il se la raconte un peu, mais en même temps, cet homme-là parle 5 langues. C'est comme ça, il parle espagnol, anglais, français, néerlandais. Antillais, un peu créole, un peu
non, étonnant. Non, créole, je comprends, mais je parle pas.
Quelques lacunes quand même en anglais. Hein.
Ouais, quelques lacunes en anglais.
En revanche, Maxime Chanot, on attend d'être présenté avant de prendre la parole sur RMC. C'est comme ça que ça marche. Bonsoir, Maxime Chanot.
Bonsoir, Nicolas.
Heureux de te retrouver dans ton maillot de la Nationalmannschaft. Bah, très oui. À propos. Et puisque l'Allemagne vient de mettre le premier carton dans ce mondial, 7-1 face à Curaçao. Voilà le premier effet d'une Coupe du Monde à 48 sélections. Petite nation Curaçao, moins de 140 000 habitants, qui en prend 7, qui pourtant avait réussi à égaliser à la 21e minute de jeu. Il y avait un partout entre les Allemands et Curaçao. Après 38 minutes, 7-1, les buteurs rapidement de Mecha, Schotterbeck, Kaya Wertz, Moussiala, Brown, Undav et Avert. 7 buteurs différents pour la Nationalmannschaft qui réussit son entrée en Coupe du Monde. Dans une heure, donc, Pays-Bas-Japon. Quelle ambition pour les Oranges, inquiétant en préparation. Le Japon peut-il être la surprise de ce mondial? Très attendu, les Japonais. Et puis dans deux jours également, vous le savez, France-Sénégal, ça se rapproche dans un instant. Composition probable de l'équipe de France. Et puisqu'on a beaucoup parlé des 11 titulaires et du système, je vais vous poser une question ce soir, Maxime et Kevin, sur les remplaçants. Qui peut être, qui sera le super sub, le super remplaçant de l'équipe de France sur ce mondial? Et quels sont ceux qui peuvent chambouler la hiérarchie et que vous voulez voir surgir du banc? Le 32-16 est ouvert avec nous sur RMC, en direct aussi sur YouTube et sur After Foot TV. On est ensemble pendant 3 heures, bien sûr. Et puis, moment important dans ce mondial, l'arrivée de la sélection iranienne de football sur le sol américain la veille de son match contre la Nouvelle-Zélande. On sera sur place à Los Angeles avec Nicolas Pelletier. Mais d'abord, Pays-Bas-Japon, les principales informations, composition, évidemment l'entrée en lice d'un autre outsider dans ce mondial après l'Allemagne. Au commentaire de ce match, Julien Boubnov. Salut Julien.
Salut Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Konnichiwa, parce que Kevin a essayé de dire
merci pour l'équilibre.
En Pays-Bas, voilà, pour l'équilibre, j'ai voulu le dire en japonais, j'aurais été incapable de le redire en néerlandais. Vous voulez les compositions d'équipe?
Allez, on y va, allez, c'est parti.
Alors, la composition d'équipe
avec l'accent,
du côté,
s'il te plaît.
Du côté des Japonais.
Tu vas te faire attraper à chaque prénom,
tu
à chaque nom.
Je vais faire en sorte, Kevin. Je vais faire en sorte, et si jamais ça va pas, évidemment, tu me reprendras. Mais je vais commencer par la composition d'équipe japonaise avec un 3-4-2-1. La défense à 3 avec Ito Taniguchi et Watanabe, le gardien Zion Suzuki, le gardien de Parme. 4 milieux de terrain, Nakamura, Sano, Kamada, Doan, Maeda et Kubo, juste derrière Ayase Ueda. Et du côté des Pays-Bas, Verbruggen dans les cages, Dumfries, Van Ecke, Van Dijk et Van de Ven en défense, Gravenberg, De Jong et Reinders au milieu de terrain, et Somerville, Malen et Cody Gakpo sur le front de l'attaque.
Voilà pour la composition des Pays-Bas et celle du Japon.
Et celle du Japon, je l'ai donnée, messieurs. Zion Suzuki, mais je peux la redonner si vous voulez.
Non, je suis en train de régler un problème de micro ici en direct. Je t'ai pas entendu jusqu'au bout sur le Japon, Julien. Merci pour la compo. On parlera de ce match, bien sûr. En quelques mots, Kevin, qu'est-ce que tu attends des Pays-Bas?
De gagner. Voilà, faut gagner pour bien débuter cette compétition. C'est une équipe qui est bien sûr dans une forme de reconstruction, même si ils ont quand même fait demi-finale de l'Euro, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est une équipe qui a un ou deux joueurs importants qui sont absents, mais ils peuvent être surprenants. En tout cas, les mathématiciens croient en eux, donc pourquoi pas.
Bon, voilà, on en parlera tout à l'heure plus longuement. Les ambitions des Oranges dans ce mondial, l'ambition du Japon également, qui a réalisé une campagne de qualification exceptionnelle, invaincu depuis 5 matchs, qui a battu l'Angleterre, l'Écosse et plus loin encore en octobre dernier, le Brésil. Mais il y a un match énorme de rugby aujourd'hui, comme on l'a vécu hier. C'est un match de barrage, qualification pour les demi-finales du top 14 entre le Stade Français et La Rochelle, sous les yeux de Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Nicolas. Nico, salut à toutes et à tous. Soit dans un jambouin plein craqué magnifique avec les drapeaux roses parisiens et jaunes pour les Rochelais. On est parti depuis une minute dans ce match, toujours 0-0. Le Stade français tient le ballon dans ce début de match. Paris qui a fini 3e de la saison régulière et le Stade Rochelais qui a arraché une 6e place qualificative après un run incroyable de 6 victoires consécutives en toute fin de match. Ça va être très équilibré, ça risque d'être aussi serré qu'hier où le Racing 92 a battu la section paloise. Ce soir, Paris et La Rochelle se battent pour une place en demi et le droit d'affronter Montpellier à Marseille samedi prochain. 1 minute 30 de jeu, 0-0, touche défensive pour les Rochelais dans leurs 22 mètres.
On reste avec toi bien sûr pour ce début de match, c'est important. Vas-y Pierre.
Le lancer pour Tolu Latou, le talonneur Rochelais. Les Parisiens qui ont bien conservé le ballon dans ce début de match. Le comble de ce match, c'est que ces deux équipes-là se sont affrontées la semaine dernière pour la dernière journée du championnat. Victoire des Rochelais 27-22. Attention parce que là, le lancer n'est pas assuré par les Rochelais. Et à 10 mètres de l'embut des Maritimes, les Parisiens vont pouvoir tenter un premier assaut. Romain Briat qui ramasse le ballon. On va faire jouer les avants avec Johan Tanga, l'ancien Rochelais qui envoie des grands coups d'épaule dans cette défense. 5 mètres de l'embut sous les poteaux pour les Parisiens. On essaye de défendre fort côté Rochelais. C'est la deuxième meilleure attaque de ce championnat. Les Parisiens, ils sont en forme cette année. Romain Briat qui a relevé le ballon, il est repris. On est à 1 mètre de l'embut, juste devant cet embut. Les Rochelais qui s'arc-boutent sur la ligne. Monsieur Kevin Bralley, il me semble, a sifflé un petit en avant pour les Parisiens. Et donc, on va repartir sur une mêlée rochelaise. Belle première séquence défensive des hommes de Ronan O'Gara qui repousse le premier assaut des Parisiens. 0-0, troisième minute de jeu et mêlée compliquée à négocier en défense pour les Maritimes.
On va rester avec toi pour la mêlée bien sûr et dans un instant on ira à Boston retrouver notre correspondant envoyé spécial Florent Germain. Il a la composition probable de l'équipe de France. Pierre,
elle est ici, c'est La Rochelle qui retentit ici à Jambouin. Ils sont très nombreux, ils ont fait beaucoup de bruit tout à l'heure à l'arrivée du bus des Rochelais qui était un petit peu en retard d'ailleurs. Ils ont eu une préparation très courte sur ce match, les coéquipiers de Greg Aldrit qui revient en grande forme comme toute cette équipe rochelaise. Tous les internationaux reviennent au meilleur des moments. Oscar Jégot, Grégory Aldrit, Paul Boudéan, Nolan Le Garay qui est étincelant également sur la fin de saison. Tout le monde s'est mis au diapason pour ces derniers matchs. Le temps avait été arrêté, ça va pouvoir reprendre avec donc la première mêlée de ce match. C'est la grande force du Stade français, cette mêlée fermée. Et on entend les applaudissements des supporters parisiens parce qu'ils savent, avec les deux frangins à l'OM1000, Paul et Moses, les deux piliers de cette équipe du Stade français, qu'ils ont une arme redoutable pour essayer de faire plier les Rochelais dans ce début de match. L'introduction, elle est maritime. Elle est pour Nolan Le Garay, 3 minutes 32 jeu, 0-0. Mêlée sous les poteaux Rochelais pour Nolan Le Garay et les siens. L'introduction du demi de mêlée international, la grosse poussée parisienne, ça s'effondre et ça va être pénalité pour les Rochelais. Ce sont les Parisiens qui sont sanctionnés sur cette première mêlée et donc les Maritimes vont pouvoir se dégager. 4e minute de jeu, 0-0 dans ce deuxième barrage de top 14.
Je vous rappelle que dans moins d'une heure, on va suivre en intégralité le duel entre le Pays-Bas et le Japon en duplex avec donc ce match, le barrage top 14, Stade français, Stade Rochelais avec Pierre Thévenet, 32-16 ouvert. N'hésitez pas à nous appeler dans l'avant-match et puis des nouvelles de l'équipe de France à venir. On ira aussi à Los Angeles pour la sélection iranienne qui arrive sur le sol américain. Événement, bien sûr, événement sensible. Pierre Thévenet.
Les Rochelais qui se dégagent grâce au pied de Antoine Astoy et il va donc y avoir un premier lancement de jeu à jouer pour les hommes de Ronan O'Gara qui ont donc terminé 6e de la saison régulière. Ils étaient largués au mois de février, très loin de ce top 6, mais ils ont réussi une série de 8 victoires en 9 matchs et les voilà donc sur ce barrage. La touche a été volée par les Parisiens et donc Tawera Carbarlo, le demi-mêlé, qui peut envoyer du jeu avec Noah Néné, la pépite au centre de cette équipe du Stade français qui avance dans la défense rochelaise. Le soutien est bon pour les Parisiens. On est revenu à 40 mètres de l'embut des Maritimes avec le Sud-Africain Jérémy Ward à grand coup d'épaule lui aussi qui essaie de se frayer un chemin. Paul à l'OM1000, la percussion bien pris par Greg Aldrit et les Parisiens qui tiennent bien le ballon dans ce début de match. Et Johan Tanga, l'ancien Rochelais, qui y va à son tour pour tenter de faire mal à la défense. On va enchaîner dans le sens côté droit avec Pignassi Dakouaka sur les appuis. L'ailier fidjien qui casse un deux plaquages qui est repris finalement, mais Paris qui conserve le ballon à l'entrée des 22 mètres. Johan Tanga, la percussion bien plaquée par Reda Wardi. La possession est complètement parisienne dans ce début de match. Pour l'instant, il ne voit pas le ballon. Les Rochelais, Louis Carbonel, la fin de passe. Il tente de s'échapper. Repris par David Niniashvili, le géorgien. Johan Tanga, à nouveau très présent dans ce début de match. Le troisième ligne. Et Carbarlo qui colle au ballon. Le demi de mêlée. Il y a un avantage en cours pour les Parisiens. La bonne passe pour Giacomo Nicotera. Ils sont revenus à 5 mètres de l'embut. Les Parisiens. Et on va enchaîner avec Paul Gabriel, le capitaine, qui relève ce ballon pour Johan Tanga, la furia parisienne dans ce début de match. Et les les Rochelais qui s'accrochent juste devant leur ligne pour résister. La grosse percussion à nouveau, on est collé à cette ligne d'en but rochelaise. On va tenter d'écarter le ballon et la première essai Paridia, signé Romain Briat, le troisième lignel de cette équipe du Stade Français, après un long mouvement de la part des Parisiens qu'on fait mal devant à cette équipe de La Rochelle. Les grosses percussions du Juan Tanga et Romain Briat qui envoie un cœur au public parisien. 5-0 pour les Soldats Roses après 7 minutes de jeu et avant la transformation de Louis Carbonel qui va passer puisqu'il est en face des poteaux. Ça va donc faire 7-0 en faveur des Parisiens après 7 minutes de jeu ici à Jambon.
Il part très fort ce barrage. Merci Pierre. On suit ce match en gros fil rouge dans la soirée sur RMC, dans l'Afterlife intégral Coupe du Monde avec le Pays-Bas, Japon qui démarre dans moins de 47 minutes désormais. Les Bleus, c'est dans deux jours, entrent en lice des vice-champions du monde face au Sénégal. Flo Germain est avec nous en direct de Boston. Salut Flo.
Salut Nico. Salut à tous. Salut Kevin. Salut, et salut Maxime.
Les infos équipe de France, bien sûr, quotidienne. Entraînement aujourd'hui. Chaleur accablante tout le temps. Plus de 30 degrés, mon cher Flo. Tu portes un short ou pas? On veut tout savoir. Short, t'es comment? T-shirt?
Oui. Mais en fait on a les deux tenues, la chemise et le pantalon quand il faut s'adapter, et puis quand il fait trop chaud on a le petit bermuda, la bouteille d'eau, on s'entraide, on met les bouteilles au frais, au congèle,
on envoie un homme d'expérience. Flo, c'est l'homme d'expérience quand même.
Petite tisane au miel le soir pour se remettre tous ensemble,
la tisane aussi parce que oui, il est un peu vieux aussi Flo, hein. Il a l'expérience, mais ça implique,
c'est pour ça j'ai les jeunes avec moi, Valentin et Arthur, je leur dis de se calmer un petit peu que c'est un marathon et donc je fais la petite tisane au miel le soir.
C'est le daron, bien sûr,
les conseils.
Bon, après c'est pas le dernier pour aller boire un coup, peut-être parfois Flo.
D'ailleurs j'ai acheté un t-shirt Bentley University Dad. Parce qu'en fait il y a des boutiques spéciales pour les étudiants de la Bentley University, et comme c'est très bien fait, Maxime va pas me démentir, il y a des t-shirts pour les mamans, pour les papas, et j'ai estimé que
c'était un peu le daron de cette équipe de France.
À mon âge, il fallait que j'ai le...
Tu l'as payé combien, $95 le t-shirt? Non.
Non ça va, c'était correct, c'était une vingtaine de dollars.
Oui, ça va aller. Bon, alors Flo, les nouvelles du jour, l'entraînement des Bleus, est-ce que les nouvelles sont bonnes pour l'équipe de France?
Très bonnes. Oui, elles sont bonnes. C'est dans la continuité de ce qu'on expliquait hier, à savoir un groupe au complet. Le retour, c'était le cas donc samedi, de William Saliba sur la pelouse d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il est à 100%, que tout va bien et qu'on oublie les douleurs au dos. Il va continuer à être sous surveillance, à être géré. Mais malgré tout, ce qui s'est passé depuis le rassemblement suit le cours de ce qu'avait prévu le staff. Le mettre dans des conditions où petit à petit, il va monter en puissance. Et lui aussi était là. Donc tout le monde présent, hein, même les Théo Hernandez, Tchouaméni, Mike Maignan, je cite ces noms-là parce que par séquence et par petit bout d'entraînement, ils n'étaient parfois pas avec le groupe, mais c'est parce qu'il y a aussi un entraînement à la carte ou différencié. Donc tout le monde était présent. Il y a eu un travail d'une petite heure sur le terrain et sous la chaleur effectivement de la Bentley University. Pas mal de coups de pied arrêtés, de séances spécifiques en ce sens. Des discussions aussi entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé ou avec Ousmane Dembélé. On sent une attention particulière, c'est pas une surprise. Concernant Ousmane Dembélé, parce que il faut qu'il trouve sa position dans ce quatuor. Donc c'est vrai qu'il y a eu des échanges importants avec le sélectionneur, mais en tout cas ce qui est clair, et on le disait dès hier sur nos antennes, c'est qu'on se dégage vers une compo qui va être normalement le copier-coller de ce qu'a fait l'équipe de France contre l'Irlande du Nord, donc avec Mike Maignan dans le but, la défense Koundé, Upamecano, Saliba et Théo Hernandez, un milieu de terrain de Tchouaméni et Rabiot, et donc ce quatuor offensif Olise, Dembélé, Doué et Kylian Mbappé. A priori, on tient le 11 pour mardi.
Flo, tu peux rester encore quelques minutes avec nous si c'est possible. On va débriefer cette compo probable, celle que nous avions annoncée déjà depuis quelques jours. Le doute Doué, que certains instillaient, finalement n'existe pas. Il sera bien titulaire dans ce quatuor offensif. Avant de faire une pause, le rugby, le direct, c'est important. Match de barrage top 14 entre le Stade Français et le Stade Rochelais. Pierre Thévenet.
10e minute de jeu, 7-0 pour le Stade Français grâce à un essai de Romain Briat transformé par Louis Carbonel. Et il n'y a vraiment qu'une équipe dans ce début de match sur le terrain. Les Parisiens dominent largement. Et les Rochelais font déjà face à la sortie de leur pilier droit, Joël Sclavy, qui sort blessé. On sait que la mêlée est un point fort du Stade Français. Le jeune Alexandre Kuntelia va devoir très certainement tenir plus de 70 minutes sur la pelouse dans ce barrage. 7-0, le jeu au pied de Louis Carbonel avait été bien lu là par Antoine Astoy, l'ouvreur Rochelais, qui va pouvoir à nouveau dégager son camp, mais ils n'arrivent pas à respirer et à sortir de leurs 22 mètres, les Rochelais, depuis le coup d'envoi. 7-0, 11e minute de jeu.
Pause rapide et on revient ici en direct de New York où il est 15h16, 21h16 en France. Maxime Chano et Kevin Diaz à mes côtés. On va lancer la soirée foot également avec le Pays-Bas-Japon et on va commencer à parler encore de l'équipe de France, de cette composition probable dessinée par Didier Deschamps. 32-16 ouvert, venez échanger avec nous, Max, Kevin. On est ensemble sur RMC dans l'After Live Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC After Live Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Dans un instant, débat équipe de France. Maxime Chano à mes côtés, Kevin Diaz aussi. On dirait de New York, 15h19, 21h19 en France, à Paris. On parle de la composition probable des Bleus avant le Sénégal dans deux jours. D'abord le rugby, c'est chaud, très chaud dans ce barrage. Au bout, un ticket pour les demi-finales du top 14 entre le Stade Français et le Stade Rochelet. Pierre Thévenet.
7-0 pour les Parisiens, 14e minute de jeu. Les Rochelais étaient mieux, ont eu une énorme occasion de marquer, mais qui a été bien défendue par les Parisiens qui se sont glissés sous les Maritimes dans l'embute pour empêcher un essai. Et là il y a eu une interception de Léo Barré qui a remonté le terrain pour le Stade Français sur 80 mètres et du coup les soldats roses sont à nouveau dans ces 22 mètres Rochelet avec Pierre-Henri Azago, le deuxième ligne qui avance, qui sert Johan Tanga, l'ancien Rochelet, qui fait un énorme début de match. Le troisième ligne centre, c'est bien défendu par les Rochelais, heureusement grattage sur ce ruck de la part d'un défenseur Rochelet qui sauve un peu la patrie. Là il me semble que c'est le centre Semi Laguivala qui vient de sauver les Rochelais qui vont pouvoir se dégager avec une nouvelle pénalité. 7-0 pour le Stade Français, 15e minute de jeu dans ce barrage.
La composition pour l'équipe de France que Flojamin vient de nous donner, je la rappelle: Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, milieu à deux devant la défense, Tchouaméni, Rabiot et puis le quatuor dont on parle beaucoup, qui peut effrayer. Je vois sur le chat, vous êtes nombreux à dire c'est le meilleur quatuor du monde. Encore à vérifier, à confirmer, Dembélé, Olysée, Doué, Mbappé. T'en penses quoi déjà ça, de ce que certains pensent de ce quatuor offensif, Max?
Je pense qu'individuellement, il n'y a même pas de question. Hein. C'est les meilleurs. C'est les
individuellement.
Meilleurs. Après, bah oui, quand tu regardes, chacun leur pense. T'as le ballon d'or en titre. T'as pour moi l'un des meilleurs attaquants au monde avec Kylian Mbappé. Le ballon d'or en titre avec Ousmane Dembélé. T'as un Michael Olysée qui a été le meilleur joueur ouais. de Bundesliga. Et t'as un Désiré Doué qu'on appelle le Golden Boy. Bon, Golden Boy depuis maintenant 3 ans. Mais qui est juste exceptionnel. Après, moi, je comprends même pas le débat d'avoir pensé qu'éventuellement Désiré Doué d'ailleurs aller sauter de ce quatuor. Bon, ça c'est une autre question.
Ça c'est pas les infos RMC Sport, hein. Non, on va être très honnête, nous on a toujours tenu bon avec l'équipe de France.
Je comprenais pas trop ce débat. Maintenant, bon, je pense qu'il est clair.
Ce débat peut exister quand même parce qu'il y a des profils différents, Maxime. Non,
mais ce qu'il a montré,
c'est le seul qui
match,
peut apprendre la profondeur, Barcola, par rapport aux trois autres.
Ce qu'il a montré sur le dernier match, ça me paraissait clair que Désiré Doué allait jouer. Mais enfin, pour revenir par rapport à ce quatuor, moi ce qui m'inquiète par contre, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a aucun qui joue à leur poste. On a eu ce débat aussi un peu plus tôt. T'as un Michael Olysée qui est relativement plus performant à droite et qui joue un peu plus dans l'axe. T'as Mbappé qui veut jouer à gauche mais finalement qui est aligné en pointe, et puis t'as Ousmane Dembélé qui, j'ai le sentiment, erre un petit peu entre les deux positions. Et finalement on se rend compte aussi que c'est pas des individualités qui font gagner des matchs, c'est plutôt un groupe. Donc oui, on va voir aussi comment ces quatre se mettent au diapason de l'équipe. Et surtout, une dernière chose en tant que défenseur, moi c'est surtout l'équilibre défensif qui m'inquiète, mais on va voir la réponse.
Quoi, ce duo Tchouaméni-Rabiot trop exposé?
Trop exposé, et puis on sait aussi que pour moi les arrières latéraux sont quand même assez moyens. Je vais être très honnête avec toi, hein, Hernandez et Koundé. Et on sait qu'avec le style Deschamps, le pragmatisme de Deschamps, on sait aussi que sur 2018 et en règle générale, quand tu gagnes des compétitions, tu la gagnes aussi grâce à ta défense et pas uniquement avec tes quatre défenseurs ou alors tes deux milieux, en l'occurrence, puisque Deschamps va sûrement se positionner de cette manière. Tu les gagnes en équipe. Et c'est vrai qu'avec un quatuor comme celui-ci, très très offensif, j'ai un peu peur justement de ce déséquilibre défensif.
Quatre individualités exceptionnelles, tu l'as dit. Flo, intéressant ce que tu nous as dit tout à l'heure quand tu as raconté l'entraînement du jour. Dembélé qui a échangé avec le staff technique, bien sûr. On en fait des débats ici. Comment peut-il être mieux connecté à ses trois autres coéquipiers, notamment à l'homme devant lui, Kylian Mbappé? C'est intéressant. On a conscience qu'il faut peaufiner tout ça.
Oui, c'est évident qu'il y a des débats dans les médias et notamment chez nous sur RMC, mais le staff ne se voile pas la face et est conscient que on n'a pas la meilleure version de Dembélé si on le comparait évidemment avec, par rapport à ses performances avec le PSG. Mais bon, tout ça est incomparable et d'ailleurs il y a eu des prises de position assez fortes sur nos antennes pour dire que on peut pas faire un copier-coller du style Luis Enrique avec Didier Deschamps, mais simplement Dembélé, les discussions souvent elle porte sur la capacité à alterner avec un Olysée. Le staff a bien noté notamment que lors du match contre l'Irlande du Nord, Olysée s'est senti très à l'aise sur certaines séquences où il partait du côté et il repiquait dans l'axe. Il a marqué d'ailleurs beaucoup de ses buts, au moins deux de ses buts sur des frappes où il était positionné, où il est venu s'insérer dans le cœur du jeu. Donc cette capacité à alterner les positions, c'est peut-être au cœur de la solution pour Ousmane Dembélé. Et puis aussi cette volonté de lui trouver des espaces pour qu'il puisse prendre la profondeur, parce que malgré tout il a ce profil de vitesse, et parfois quand il est comme ça en 9,5 en soutien de Kylian Mbappé, c'est une évidence qu'on se prive d'un Dembélé capable de prendre les espaces. Donc tout ça, c'est un Deschamps au petit soin par rapport à Dembélé, au quatuor offensif dans son ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si depuis 48 heures, les séances en général sont vraiment coupées. On a un Deschamps qui est au cœur de l'entraînement, qui prend le temps d'expliquer, d'arrêter, notamment avec ses offensifs, pour faire passer ses consignes. Donc c'est vraiment au cœur du sujet pour lui.
Il explique quoi, Flo? T'as pu assister à des séances justement? Est-ce que tu sembles savoir qu'est-ce qu'il leur demande?
Non, mais les séances pour la plupart sont ouvertes le premier quart d'heure, hein, et okay, après. Okay.
Vous n'avez pas des infos,
des bonnes guerres. Non, mais si, ce qu'on sait, c'est que justement, c'est ce que je disais, c'est que lui, Didier Deschamps, il veut semer le doute chez l'adversaire et perturber les défenses adverses par le fait que Dembélé, Olise, Mbappé ne joueront quasiment jamais au même endroit tout le match. Donc, Doué a cette capacité à venir dans l'axe, et je pense aussi à venir aider le milieu de terrain, parce que s'il y en a un des quatre qui doit aider le milieu de terrain, c'est Désiré Doué. Mbappé, c'est pas parce qu'il démarre en attaquant de pointe qu'il va pas naturellement, et on l'a même vu ici à Boston en match amical contre le Brésil, il avait passé une bonne partie de la rencontre sur le côté gauche. Je le disais, Olise, peut-être qu'il va démarrer à droite, mais vous le verrez dans le cœur du jeu plein de fois. Et en fait, Deschamps, il n'arrête pas de dire à ses hommes, les garçons, tout ça, c'est pas figé. Mais par contre, quel doute on va instiller dans la tête de l'adversaire s'ils ne savent même pas où joue un tel et un tel.
Mais ça, Flo, c'est de l'orfèvrerie. Le risque que ces quatre joueurs se marchent dessus à force de permuter, d'une mobilité permanente, de la première à la dernière, c'est un truc qui se bosse pendant des mois et des mois. C'est compliqué sur une compétition comme celle-ci.
Je t'entends raconter ce que tu dis là et ça m'intéresse beaucoup, mais honnêtement, je paierais pour être, tu vois, la ref cam sur l'oreille de Didier Deschamps là.
Non, la coach cam quoi.
Ouais. La coach cam, mais tu vois la ref, et du coup.
Non, la coach.
Non, la ref.
J'ai compris.
Non, mais je parle de la ref. Non, je plaisante. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'entends qu'on a les meilleurs joueurs sur le papier. Il n'y a pas de problème en termes de jeunesse, de qualité, de talent, d'explosivité, de multiplicité des profils. Aucun problème. Mais moi, en fait, j'aurais bien aimé qu'on ait un entraîneur. Je ne parle pas d'un sélectionneur. Ça, on l'a, il est très très bon. Je parle de l'entraîneur. Parce que pour moi, je t'entends, Flo, mais ça n'a pas de sens de dire au mec, ah, vous rendez compte, alors vous allez faire un peu ce que vous voulez, mais l'adversaire, il ne sera pas. Parce que... Mais non, mais il y a un moment où dans l'équipe de France, ce qu'on a l'impression, c'est que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans certains matchs.
Et moi, la question que j'ai.
Est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu cela?
Peut-être,
aussi, Kevin.
Peut-être un petit peu. Mais on va voir. Mais il y a quand même des matchs où t'as l'impression qu'ils se marchent dessus. Je dis pas que c'est 90 minutes.
Je suis d'accord avec toi.
Il y a des séquences de jeu qui sont compliquées quand même.
Je suis d'accord avec toi. Et moi, la question que j'ai envie de te poser aussi, en fait, ça va avec ce que va te poser, enfin, la question de Kevin, c'est est-ce que les joueurs ont envie de jouer au poste que Didier Deschamps leur propose? C'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'Mbappé a envie d'être à gauche, que Dembélé a envie d'être en pointe et qu'Olise a envie d'être à droite. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors moi je te dis, si c'était le cas, Didier Deschamps ne continuerait pas avec quatre offensifs. Il faut pas croire que Deschamps, sa force du moment, et en tout cas c'est pas moi qui dis, ce sont les joueurs eux-mêmes, c'est qu'il est vraiment à l'écoute de son groupe, de ses joueurs, et peut-être même encore plus que par le passé, parce que il a compris comment fonctionnait ce qu'il appelle lui la nouvelle génération. Donc il a un contact encore plus charnel, j'ai envie de dire, avec les joueurs qu'avant. Il les écoute, et donc ce sont les joueurs qui se sentent bien dans ce quatuor,
sont satisfaits de leur position, même si tu l'as dit, c'est
tout
les positions
hybrides. Je dis pas que tout est parfait, et d'ailleurs si on explique que au cœur des entraînements il arrête souvent les séances pour travailler, parce que au cours de la saison avec les rassemblements, il a pas forcément le temps parfois de peaufiner. Dembélé, faut pas oublier qu'il a été longuement absent aussi lors des rassemblements de l'équipe de France. Donc au final, les avoir tous sous la main, c'est quelque chose de précieux. Il en profite, il travaille. Donc je dis pas que tout est parfait et que ce système là, c'est le système qui va faire forcément gagner l'équipe de France. Simplement, on a des joueurs qui sont désireux d'avoir ce système offensif. offensifs, ouais, qui se sentent bien dedans, mais qui sont conscients qu'il doit s'améliorer. En revanche, c'est, on l'a pas encore vu dans une Coupe du Monde, on l'a pas encore vu dans la vraie compétition.
Oui.
Donc c'est pour ça que je dis, je trouve qu'on a des, oui, je trouve qu'on a peut-être des avis encore définitifs. Alors on n'a pas encore la réponse.
On peut avoir quelques craintes.
On va être séduit et peut-être qu'on aura aussi des bonnes surprises.
On a des interrogations pour l'instant, on attend des réponses bien sûr.
En ce qui me concerne, moi j'ai pas trop peur de l'équipe de France lorsqu'ils ont le ballon. Alors évidemment, il y a aussi cet aspect de, il va falloir faire attention que les joueurs ne se marchent pas dessus. Tu l'as très justement dit, Nico. Moi, c'est plus à la perte de balle en fait. Tu sais, quand t'as un système hybride avec des joueurs qui sont un peu partout, quand tu perds le ballon et surtout quand une équipe comme le Sénégal, on l'a vu là avec la Côte d'Ivoire, tu sais, ça demande aussi une intelligence tactique de vite réagir et de te retrouver dans une position pour pouvoir aider les copains pour défendre. Et c'est vrai que quand il n'y a pas vraiment de position qui sont vraiment là,
ou de zones attribuées à chacun sur la phase défensive.
Il suffit qu'il y ait, tu vois, des joueurs qui se retrouvent entre les lignes. Derrière, tu perds le ballon à gauche. Si Dembélé et Mbappé se retrouvent dans l'axe, c'est très très compliqué pour les copains derrière. Et donc, c'est juste un peu ce déséquilibre défensif qui, moi, m'inquiète avec ce quatuor offensif.
Bon, voilà. Flo, merci. Tiens, vous savez ce que c'est, ce
merci
bruit? C'est quoi ce bruit?
Ah, une cafetière, non?
C'est le bruit de la théière qui siffle, qui attend Flo Germain. Il paraît que.
Non, ce qui nous attend, c'est 4 heures de route pour vous rejoindre, les amis.
Il paraît que la tisane est prête.
Nous partons de ce pas avec Valentin Germain.
Bon, très bien, merci.
Ça moque pas des petites tisanes au miel?
Pas du tout, on adore ça, évidemment.
En plus, nous,
en plus quand il fait 35 degrés, c'est parfait, c'est à propos.
Si ça t'intéresse, Flo, si le soir tu veux pas prendre ta tisane, nous en plus, on connaît pas du tout un ou deux endroits sympas pour boire un verre.
Maxime Chanou nous a.
Encore, ça.
Il paraît que vous avez repéré.
Pourquoi tu parles de Maxime Chanou là?
Stop! Merci, Flo. Bon retour. On t'attend à New York, hein. On boit la tisane ensemble. Donc, le rugby, les amis, c'est important, c'est chaud. Stade français, Stade Rochelet, barrage, ticket au bout pour une demi-finale top 14. Où en est-on, mon cher Thévené?
Toujours à. Mon cher Jamin, toujours à 7-0 après 24 minutes de jeu. Les Parisiens qui mènent, mais la défense de La Rochelle qui tient bon. Paris tient le ballon, mais pour l'instant, La Rochelle tient. Il y a eu deux coups de pied ratés également par Louis Carbonel, l'ouvreur parisien. 6 points échappés en route par les hommes de Paul Gustard, et La Rochelle pour l'instant reste tout ou proche sans voir le ballon quasiment, mais ils sont là dans le match à la 24e minute de jeu. Le ballon est au niveau des 40 mètres dans les mains parisiennes qui continuent de tenter de déplacer cette défense maritime. 7-0, grosse ambiance à Jean-Bouin, et Paris est devant après 24 minutes de jeu.
Pause, on vient dans un instant, on parle encore équipe de France. Quel est selon vous le remplaçant qui va s'affirmer comme un titulaire pendant la Coupe du Monde, si ça arrive, votre super sub aussi. Et puis on lance la soirée Pays-Bas-Japon, coup d'envoi dans moins d'une demi-heure désormais, le rappel des compos. Que peuvent espérer les oranges de Kevin Diaz dans ce mondial? Un quart de finale? Comment? Une demi-finale? Peuvent-ils être ambitieux avec Memphis Depay sur le front de l'attaque? On en parle dans un instant avec Maxime Chanot, Kevin Diaz. Vous écoutez RMC, l'After Live intégrale Coupe du Monde en direct de New York. A tout de suite.
RMC After Live intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'After Live Coupe du Monde avec Maxime Chanot, Kevin Diaz. Dans moins de 30 minutes, le coup d'envoi de Pays-Bas Japon. Je vous rappelle la victoire de la National Mannschaft, l'Allemagne, face à Curaçao, 7-1. Le rugby, point chaud de notre soirée ici à New York, mais ça se passe à Paris, le Stade français face au Stade Rochelet. Pierre Thévenet, où en est-on?
Et la physionomie est toujours la même, 7-0 pour le Stade français qui n'arrive pas à se détacher des Rochelais malgré une énorme domination de la part des hommes de Paul Gustard. Pour vous donner une statistique, les Parisiens ont plaqué 11 fois dans ce début de match. Les Rochelais sont à 102 plaquages effectués déjà, 10 fois plus de plaquages. Ils ne font que défendre les hommes de Ronan O'Gara, mais ils tiennent. Pour l'instant, ils n'ont pris qu'un seul essai par l'intermédiaire de Romain Briat en tout début de match. Attention là, peut-être avec Jérémy Ward, le centre sud-africain qui rentre encore dans les 22 mètres. Il campe dans ces 22 mètres, les Parisiens, depuis le début du match. Paul Aloémi, la percussion, et on va bien défendre à nouveau côté parisien. Jérémy Ward qui reste au sol. Il y aura un avantage en cours pour le Stade français qui vont pouvoir jouer ce ballon. Taouera Carbarlo qui essaye de l'extraire de ce regroupement sur la ligne des 22 mètres. Il ne pourra pas. Il y aura une pénalité en faveur des Parisiens, 22 mètres en face des poteaux, et donc très certainement 3 points supplémentaires pour le Stade français qui essaye petit à petit de s'échapper de La Rochelle qui défend admirablement bien dans ses 27 premières minutes. 7-0 pour le Stade français et sans doute 10-0 à venir après la pénalité de Louis Carbonel.
Pays-Bas-Japon, dans moins de 25 minutes désormais, un moment d'émotion pour Kevin Diaz et son autre pays. C'est quoi ton classement pays, supporter? France, Pays-Bas, Portugal? t'ai mis dans la mouise, là. Hein.
Non, alors, franchement.
Pour ta communauté de fans, pour la Diaz community, c'est compliqué.
Je vais être tranché. La France a déjà gagné, le Portugal a déjà gagné. Ouais, si je vais choisir, c'est les pays.
Mais ton cœur, il ne résonne pas comme ça, ton cœur. Ton cœur ne résonne pas.
Le Portugal a déjà gagné. Il a gagné quoi?
L'euro.
Ah, d'accord, on est sur une Coupe du Monde, là.
Toi, tu auras des problèmes.
Mais moi, tu sais, je ne suis plus dans l'affect. Moi, je suis dans le partage. Je suis dans le partage et le partage. C'est Netherlands. Maintenant, c'est Netherlands. Après, on verra. Après, la France et puis advienne que pourra.
Point chaud, hein. Vous avez compris, on va suivre en fil rouge ce match. Vous êtes nombreux à nous écouter sur RMC aussi pour ce barrage top 14, Stade français, Stade Rochelet. Touche très dangereuse pour les Parisiens. Pierre Thévenet.
Et le ballon porté qui s'enclenche pour le Stade français. Romain Briat qui a réussi à en sortir. Et le doublé du troisième ligne parisien à l'issue de ce ballon porté à 5 mètres de l'embut Rochelet. Ils ont tenu autant qu'ils pouvaient les Maritimes. Mais là, ils craquent. Et la petite tape de Paul Aloémile qui vient chambrer un petit peu Paul Boudéan. Le troisième ligne Rochelet. Mais ça craque, ça fissure côté maritime. Greg Aldrit, le capitaine, est déjà 14 plaquages effectués en 28 minutes. Souvent, dans un match, on termine à 20 plaquages. C'est que ça a été un très gros match, déjà 14 après une demi-heure. Les Rochelais qui cèdent une deuxième fois, à nouveau, par l'intermédiaire de Romain Briat en puissance à l'issue d'un ballon porté qui vient marquer. Doublé pour Romain Briat et la transformation à venir pour Louis Carbonel. Il est excentré sur le côté droit. Il a raté deux coups de pied déjà dans ce début de match. Il ne faut pas laisser trop de points en route pour le demi d'ouverture parisien qui renaît cette année dans la capitale après des années très compliquées à Montpellier, à Toulon et sa première année également ici à Jean-Bouin. La transformation de Louis Carbonel et cette fois-ci c'est parfait, ça va faire 14-0. Le Stade français prend un petit peu d'air à la 30e minute de jeu face à La Rochelle.
On suit ce match avec toi, Pierre Thévenet. Pour l'instant, l'option, mais c'est encore très long. Il reste 50 minutes minimum, 12-0, 14-0 pour le Stade français. Alors, l'équipe de France, avant qu'on aille à Dallas pour ce Pays-Bas-Japon, la question, on en connaît le groupe. On a vu constater qu'il y avait un petit fossé entre les cadres, les titulaires et les coiffeurs. Mais il y a 3-4 joueurs entre les coiffeurs. Oui, c'est l'expression consacrée, Maxime, ouais. Tu rigoles. Tu n'as jamais été un coiffeur, toi, avec le Luxembourg, on le sait.
Tu les renforces. Lio Charbonnier disait que c'était manquer de respect.
Il n'aime pas ça, il remplace. Oui, mais c'est un coiffeur. Ah, oui, comme il a moins de cheveux, c'est plus compliqué. On dit les choses ici, c'est comme ça, c'est l'after live.
Un horrible personnage.
Très attention.
Je suis un enfoiré.
Mais comment tu peux être sympa dans la vie et aussi dur à
l'antenne? Les gens ne savent pas que tu es vraiment sympa en dehors. Surtout quand on ne te voit pas. Comme on te voit très peu ici.
Bon, les gars, oui, moi je travaille, je reste à l'hôtel dans ma chambre pour travailler. Exactement. Alors, messieurs.
Tu nous as pas dit ce que ça a donné le tennis face à Daniel.
On en parlera plus tard. Quel est selon vous le joueur qui peut se faire une place, qui peut chambouler la hiérarchie dans ce 11 qu'on a cité tout à l'heure avec Florent Germain, Kevin? Ou alors le mec que tu vois émerger et chambouler la hiérarchie?
Moi, celui qui peut chambouler la hiérarchie, c'est forcément Ryan Cherki, qui a quand même fait de très très bonnes entrées, qui apporte cette qualité technique, de ce que nous disaient les envoyés spéciaux à l'entraînement. Apparemment, c'est impressionnant. Il impressionne tout le monde. S'il est dans le mode pour continuer sa saison, qu'il arrive à simplifier encore un tout petit peu son jeu, ce qu'il a montré ces dernières fois avec l'équipe de France, c'est très bien. Pour moi, je pense que si on considère que Désiré Doué, il est dans le 11 type. Je pense que Bradley Barcola, il peut amener forcément sa vitesse, même si on sait qu'il est maladroit et qu'il sera un joueur qui je le vois pas progresser comme ça du jour au lendemain. Il va rater des occasions, il va rater des trucs, mais il apporte tellement de possibilités. Et moi, il y a un joueur qui pour moi, qui
parce que sur le chat là, il y a la chaîne YouTube de l'After, joueur qui revient beaucoup. Je te dis rien.
Moi, pour moi, il y a un joueur qui m'impressionne depuis plusieurs mois et que et que je trouve monstrueux. C'est Warren Zaïre.
Bien sûr. C'était au moins 10 fois là par les Aftoriens sur YouTube.
Il manque ce troisième. Et moi, je pense que ça peut être le troisième.
C'est intéressant. Tu crois qu'il peut s'imposer même?
Jamais.
Qui peut chambouler?
Jamais.
Troisième milieu de terrain qui peut
jamais.
Faire.
Jamais. Oui, c'est un système qui change.
Ah, intéressant. Bien sûr. Devant lui, pourquoi? En termes de niveau.
N'Golo Kanté et Manu Koné, c'est des 6. Moi, je te parle s'il repasse dans un 4-3.
Ah oui, mais toi, tu réécris pour l'instant l'histoire.
Ou alors, on est sur un 4-3 dans un rôle hybride.
Oui, peut-être, mais bon, au même titre que quand. Matuidi et Pogba et N'Golo Kanté jouer ensemble. Enfin, tu vois bien, c'est des joueurs qui sont en mesure de pouvoir s'adapter. Je comprends ce que tu as envie de, ce que tu dis par rapport à cette position de numéro 8. Mais, enfin, moi, je pensais à Manu Koné. Alors, je t'explique, je vais aller un peu plus loin dans mon analyse. J'ai été le premier, en tout cas.
Il t'explique, non, mais c'est très important. Toi, dans son
ouais, non, mais, ouais, oui, tu vois.
Ça, on le sait.
Les mots sont posés, ouais. J'avais été le premier.
Il a le maillot de l'Allemagne, il est encore plus en confiance, ouais, tu vois. Il a l'arrogance.
Mais en règle générale, quand je mets le maillot, je te dis, tout le monde gagne. Voilà, tu sais, demain je mettrai en tout cas je mettrai celui de la Côte d'Ivoire ce soir aussi au passage. Tiens, voilà.
Ah oui.
Tout ça pour te dire que qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Ah oui, non, par rapport aux joueurs qui peuvent s'imposer. Moi, je pense à Manu Koné. Alors, pourquoi Manu Koné? Parce que j'ai été l'un des premiers après cette fameuse tournée, non pas de l'after, mais de l'équipe de France aux États-Unis, là où est-ce que tout le monde les a enflammés après le match du Brésil et de la Colombie avec ce quatuor offensif. Quand j'ai vu un petit peu le déséquilibre défensif, comme je l'ai dit un peu plus tôt, connaissant Didier Deschamps, j'avais dit très tôt qu'à mon avis, Deschamps allait revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique avec ce système, avec trois milieux défensifs. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire aujourd'hui Manu Koné, parce que je suis convaincu, et je ne l'espère pas, en tant que Français, j'ai absolument envie de voir du football champagne, j'ai envie de voir des buts, j'ai envie de voir une équipe de France qui va au bout avec ce quatuor offensif, mais j'ai quand même un doute. Et je ne serais pas surpris de voir un Didier Deschamps revenir à un schéma qu'il connaît très bien avec donc trois milieux de terrain. Kevin a entièrement raison par rapport à Zaïre Emery, même si je pense que dans la hiérarchie Didier Deschamps, il est derrière Manu Koné et même N'Golo Kanté. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de voir Manu Koné s'imposer. Et je pense que collectivement parlant, de réintégrer un Manu Koné dans ce 11 de départ, je pense que ça donne plus de chances, en tout cas à l'équipe de France, de pouvoir aller au bout.
C'est intéressant, profil différent Manu Koné, Zaïre Emery aussi, capacité de projection, on le disait hier, on n'a pas ce milieu de terrain relayeur. Rabiot sait le faire.
Rabiot peut le faire.
Mais je trouve assez frileux en général, moi.
C'est-à-dire?
Je trouve qu'il prend pas assez de risques, oui, il est pas assez audacieux, il est pas assez audacieux. Il aime l'horizontalité, quoi. La verticalité, c'est un peu moins son truc.
Il y a pas de place là.
Rabiot est beaucoup sur les stats. C'est vrai qu'en règle générale, il aime pas trop.
En termes de passes réussies, c'est vrai. Il veut pas être à moins de 99% passes réussies.
C'est beaucoup plus facile de réussir ta passe sur
cette ligne. Messieurs, de troisième essai parisien en rugby, incroyable et magnifique essai du Stade Français. Là, pour le coup, tout à l'heure, c'était les avants. Cette fois-ci, ce sont les trois quarts qui se sont mis en lumière. Les trois quarts parisiens avec un essai conclu par Léo Barré. Après un numéro dans le couloir de Peña Sidakouaka, l'ailier fidjien. Et Léo Barré qui vient inscrire le troisième essai parisien. 19-0 pour le Stade Français. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain dans cette première période. La Rochelle, elle s'accroche comme il peut. Mais là, ça devient trop compliqué face aux Parisiens qui mènent donc 19-0 avant la transformation de Louis Carbonel qui va la passer dans quelques instants. Il est quasiment en face. Mais c'est magnifique sur le côté droit. Il y a eu un petit 1-2. Léo Barré, le crochet intérieur, deuxième crochet intérieur pour venir marquer quasiment sous les poteaux. Tout de suite, on se met en cercle côté Rochelais. On essaie de se parler autour de Greg Aldrit. Mais j'annonce un match serré comme hier soir.
Attends,
c'est beaucoup plus compliqué pour l'instant.
Exactement, pour l'instant en tout cas, on suit ce match avec toi en même temps que Pays-Bas-Japon. Japon, on en parle maintenant. Écoutez, c'est parti. Ambiance à Dallas. Kevin Diaz danse en direct sur la chaîne YouTube, allez-y, ou sur After Foot TV. Il connaît ce chant traditionnel néerlandais par cœur. Ils sont des milliers, comme Dag, la vague orange s'est emparée du Texas, Dallas. Le orange, voilà, qui s'impose dans toutes les villes du monde lorsqu'il y a une coupe du monde, justement. Les Pays-Bas font leur entrée en lice dans moins de 20 minutes désormais. Oui, Maxime.
Les Pays-Bas version cowboy. À Dallas.
Oui, t'as raison.
Ouais, avec des chapeaux. Alors, c'est très intéressant et parfois même déroutant quand t'arrives à Dallas, il y a le port d'armes est autorisé là-haut. Donc ça arrive de voir des gens.
Tu peux te balader dans la rue avec ton flingue.
Exactement.
Quoi. C'est très bien, tout va bien.
Il faut faire attention.
T'as le droit de tirer dans le ciel ou pas comme ça?
Ah, ça, je l'ai jamais vu. Mais c'est pour ça, vous deux, hein, qui êtes un peu arrogants parfois, faites attention au Texas.
Pas du tout. Si c'est vrai, on est arrogant, il y a raison. Un petit peu.
Je vais vous le dire de l'extérieur.
Parfois.
Mais quand on vous connaît après, les a priori.
C'est vrai qu'on est un peu arrogant souvent.
C'est pas ça.
Souvent, on me dit comme ça au premier abord, tu sembles intouchable.
Le deuxième aussi. Et le troisième, c'est marrant. Voilà. Bon, Julien Boumnoff est avec nous. Il sera le commentaire de ce match. Rappelle-nous la compo des Pays-Bas, s'il te plaît. Julien.
Avec Bart Verbruggen dans les cages, Mickey Van de Ven sur le côté gauche, Virgil van Dijk en défense centrale accompagné par Jan-Paul Van Eyke, Denzel Dumfries sur le côté droit, milieu à 3 avec Tijani Reinders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et les 3 de devant, Cody Rakpo, Daniel Maalen et Crisencio Somerville.
Et donc Memphis Depay n'est pas titulaire, on savait, on s'y attendait, longtemps blessé, il revient à peine, 45 minutes seulement de jeu sur les matchs de préparation à ce mondial. Il est pourtant le meilleur buteur de l'histoire des Oranges, 55 réalisations en 109 sélections. Kevin, qu'attends-tu des Pays-Bas, pas sur ce match, mais sur la Coupe du Monde? Phase préparatoire compliquée, équipe abîmée, beaucoup d'absents. Jurrien Timber finalement a dû rentrer à la maison, blessé, joueur d'Arsenal. Schouten également, Matthijs de Ligt n'est pas là. Et surtout, j'ai envie de dire, je crois que Max, il voudrait en parler, Xavi Simons, blessé, qui était un peu le créateur créatif des Orange.
Ouais, bah c'est vrai que c'est une sélection où il y a pas énormément, il y a pas un vivier.
C'est triste, hein.
Il y a pas un grand vivier, mais après c'est pas triste, hein. C'est un petit pays, hein. Ça reste un petit pays. Si demain au Portugal.
Non, par rapport à ce qu'on a connu, je veux dire, c'est ça.
Ah hein. Oui, non mais.
Je suis pas en train de les accabler, mais.
Non, mais à partir du moment où t'as, comme tu dis, t'as quatre titulaires qui sont absents. Bon, Schrauten, c'est pas encore exactement un titulaire indiscutable, mais c'est quand même un joueur qui a très très souvent joué sur les derniers matchs. Donc voilà, ça reste une sélection où t'as besoin d'avoir. C'est comme si t'as pas la Modric en Croatie ou même si nous il nous manque Kylian Mbappé. Bon, ça va parce qu'il y a quand même le retour de Frenkie de Jong, alors même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, parce que pour moi c'est de loin le joueur le plus talentueux de cette génération des Pays-Bas, avec vraiment une capacité à contrôler le jeu. Bah, on parlait de Luka Modric, mais moi c'est sûrement mes deux milieux de terrain préférés sur les 10 dernières années, voire sur les 15 dernières années pour Luka Modric. Mais c'est vrai que ça reste une sélection où tu verras, bah, c'est un peu comme l'Allemagne, c'est un peu comme le Portugal, tu auras toujours des joueurs techniques, c'est un peu comme l'Espagne, c'est des joueurs qui sont formés, qui sont pas formés forcément.
Qu'est-ce qu'elle peut espérer cette sélection, franchement?
Ils sont formés de la même façon. Pour moi, je pense que eux, ils y vont, c'est pour gagner la Coupe du Monde. Hein. Bien sûr, ouais, bien sûr
qu'ils ont. Avec l'arrogance,
ça, ok.
Non, pas avec l'arrogance. C'est pas forcément de l'arrogance. C'est la détermination de pouvoir.
Confiance en soi.
Voilà, la confiance en soi. Ouais, exactement. Okay. Ils sont déterminés.
Ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, je le rappelle.
Ils n'ont jamais gagné. Maintenant, s'ils font au dernier carré, c'est un résultat exceptionnel. S'ils font quart de finale, ça reste une Coupe du Monde correcte.
Ah ouais. Ah, d'accord, non, je suis.
Si le quart de finale, ce sera correct pour les Pays-Bas.
Exceptionnel,
hein.
Demi-finale, non, c'est.
Si, parce que regarde, quand tu vois le 11, absent.
Sincèrement.
Quand tu vois le 11, tu restes.
Non, mais le 11, c'est bien.
Il reste des joueurs d'expérience. Il reste Van Dijk, Gravenberg, Dumfries, t'as parqué de Jong. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur de l'Afrique du Sud ou Luxembourg, quoi. On a quand même une équipe qui tient la route.
Bien sûr, c'est pour ça que je te dis que quart de finale, c'est le minimum.
Non, mais t'es en train de dire que demi-finale, c'était exceptionnel.
Non, mais exceptionnel, ça reste. Je veux dire, c'est un très bon résultat.
Réussi.
T'es en demi-finale. Faut pas oublier qu'ils ont été éliminés par l'Argentine en quart de finale sur un match très serré. Incroyable. Avec un Messi monstrueux.
C'est pour ça qu'elle est en demi-finale cette année. Ça serait une Coupe du Monde réussie. De là à dire que ça serait exceptionnel.
Non, mais il me demande qu'est-ce que j'attends. Okay. Quart de finale minimum, demi-finale, c'est déjà très bien.
Ok, on va en parler. Pour la gagner. On va entrer dans ce match. On dirait le Dallas, 20 degrés et le toit est fermé dans ce stade. Hein. C'est l'un des rares stades avec un toit qui permet de gérer la température. On parie ce duel entre les Pays-Bas et le Japon.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et on parie avec Christophe Plenet. Salut Christophe.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Quels sont les codes de ce match? Sont-elles déséquilibrées? Parce que le Japon, attention, Japon, équipe en forme qui veut être l'équipe surprise de ce mondial.
Eh bien écoute, ce sont les Pays-Bas qui sont favoris. 2-0-5 la victoire des Néerlandais, 3-50 le match nul, 3-60 la victoire du Japon. Je vois un match ouvert. Je vous propose la victoire des Pays-Bas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3-70. Ou la victoire néerlandaise par au moins deux buts d'écart, c'est coté à 3-60.
Faites quoi, Maxime?
Écoute, moi, je vois un match nul avec des buts. Je dirais un but partout.
Ah,
moi, je vais suivre l'excellent Christophe Lenné. Et je vais jouer les Pays-Bas avec les deux équipes qui marquent.
Merci, Top. Kevin. Tu transpires le foot. Et le 1 partout, Max, est à 5.
Transpire-moi.
Moi, j'annonce les Pays-Bas.
Enfin, tu transpires tout court.
Moi, j'annonce le Japon. Merci, Christophe.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Coup d'envoi dans 13 minutes de ce duel entre les Pays-Bas et le Japon à suivre sur RMC avec Maxime Chano et Kevin Diaz. C'est la mi-temps au rugby, Pierre Thévenet.
19-0 pour le Stade français à la pause, un doublé de Romain Briat, un essai de Léo Barré pour terminer le travail pour l'instant dans cette première période à sens unique. Et La Rochelle a peut-être perdu également Paul Boudéan qui s'est tenu le genou à l'international tricolore et qui s'est tordu de douleur et qui sort en boitant bien bas. 19-0 pour le Stade français à la pause donc face au Stade Rochelet.
Reste avec nous, il est 15h48 ici à New York, il est 21h48 en France, vous écoutez RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Nouveau match, nouvelle affiche à venir en direct, Pays-Bas-Japon. A tout de suite sur RMC.
RMC, After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'After Live, intégrale Coupe du Monde. Très heureux de vous faire vivre cette soirée de Coupe du Monde sur RMC. Il est 21h51 en France, 15h51 à New York. Je vous rappelle également qu'on est en direct vidéo sur After Foot TV. Vous êtes très nombreux à nous regarder, je le sais, sur la chaîne YouTube de l'After. Maxime Chano est à mes côtés, Kevin Diaz aussi. Et on va lancer dans un instant la Coupe du le match entre les Pays-Bas et le Japon à venir. On va rappeler les compos également et dire un mot du Japon, bien sûr. Avec toi, Julien, le Japon, attention, client. Il y a deux blessés, deux absences importantes, notamment un monégasque, Minamino. Mitoma n'est pas là également, le joueur de Brighton. Mais très belle préparation pour les Japonais qui ont survolé en qualification.
Ouais, ça reste très solide, cette équipe du Japon, parce qu'en qualification, ils avaient terminé premier du groupe B devant la série La Corée du Nord, avec une victoire notamment sur tapis vert, parce que le match à Pyongyang ne s'était pas joué. Et ensuite, dans le deuxième tour de qualification, ils avaient terminé premier du groupe C devant l'Australie, l'Arabie Saoudite, invaincu quasiment pendant toute leur campagne de qualification. La seule défaite, c'était face à l'Australie, alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Et surtout, ils restent sur 6 victoires consécutives en amical, dont une face à l'Angleterre et une de prestige face au Brésil en octobre dernier.
Mais victoire surtout, 1-0 contre les Anglais, victoire contre le Brésil.
Surtout privé de leur capitaine, joueur de Liverpool, Wataru Endo. Et ça, c'est une grosse perte d'ailleurs, qui a annoncé, je pense, sa retraite internationale.
Oui, c'est ça, exactement. C'est pas sur blessure, hein, c'est fin de carrière internationale.
Tu crois
au Japon?
Il s'est blessé au pied.
Ah, d'accord.
Il n'a pas été sélectionné dans la
finale. Il a annoncé
sa fin de carrière.
Qu'est-ce que tu attends du Japon, sincèrement? C'est un jeu différent, on le dit souvent. Hein. On a vu la Corée du Sud, on est sur des configurations qui peuvent se remplacer, se ressembler. T'aimes beaucoup. Entrée des équipes, Julien Boumounov.
Avec ce stade de Dallas.
Quel stade?
Orange, quasiment à 80%. C'est une véritable marée orange qui s'est emparée de Dallas.
Les Néerlandais, hein, c'est sûr.
Mais les Japonais aussi. Hein.
Ouais. Ils ont fait le déplacement, évidemment, les Néerlandais, pour ce premier match du groupe F entre les Pays-Bas et le Japon. L'entrée, vous en avez l'habitude depuis le début de la compétition maintenant, avec toute l'équipe, les 26 joueurs sélectionnés qui rentrent, qui se mettent autour du rond central pour entamer et entonner les hymnes nationaux dans quelques secondes.
Dans quelques secondes, les hymnes, bien sûr. Le Japon face aux Pays-Bas. Le Japon qui espère au moins faire un quart de finale cette Coupe du Monde. C'est parti pour le premier hymne.
Netherlands.
Wilhelmus van Nassouwijk, Guillaume de Nassau, l'hymne national des Pays-Bas qui vient d'être entonné dans ce stade de Dallas. Place maintenant à Kimi Gayo, votre reine, l'hymne national du Japon.
L'hymne japonais, l'hymne des Néerlandais, Pays-Bas, Japon, qu'on envoie dans moins de 5 minutes désormais. Vous restez avec nous, Julien Boumounov au commentaire, Maxime Chano, Kevin Diaz à mes côtés. Vous écoutez RMC, c'est l'After Live intégrale Coupe du Monde en direct de New York.
RMC After Live intégrale Coupe du Monde.